La rédac pop.
L'université est un univers à la fois si proche et si éloigné à Orléans-la-Source. Le campus universitaire côtoie le quartier. Elle réunit près de 20 000 étudiants qui suivent des cours et passent des examens après avoir passé le bac. Dans notre club podcast, certains d'entre nous pourraient bientôt rejoindre ce monde merveilleux, mais exigeant des études supérieures. Nous avons donc décidé de poser nos micros à la faculté des lettres, langues et sciences humaines pour une visite guidée. C'était le 7 janvier, alors que le campus était recouvert d'une neige, nous offrant un spectacle fascinant.
Alors réfléchissez aux questions aussi, hein. Les 5 W, qui, quoi, quand, où, pourquoi.
Avant de nous rendre à la faculté de lettres, nous avons fait un petit détour dans la bibliothèque universitaire, plus communément appelée BU. Nous sommes tombés à l'intérieur sur Aïcha, arrivée de Tunisie il y a 4 ans, et Fatima, venue d'Algérie il y a 5 ans. Toutes deux étudient en master d'informatique.
Je viens de la Tunisie. Au début, je n'étais pas en informatique. J'avoue, ce n'était pas du tout un truc que je voulais faire. Et j'étais en médecine, mais après, j'ai pas du tout aimé, même si j'ai réussi les 2 années, mais bon, je voulais pas du tout. Il y avait trop de charges de travail pour 0 stage. Et bah, du coup, j'ai pas voulu faire ça, je voulais changer. Et j'ai fait l'informatique et j'ai aimé.
On est en master informatique et comme elle avait dit, on fait un peu d'IA, un peu de programmation et de cybersécurité. J'aime trop tout ce qui est jeux vidéo et je voulais découvrir le monde de programmation, de ce qui se trouve derrière les réseaux, derrière tout ce qu'on voit, l'écran. Comment ça se passe, et pour moi c'était comme une barrière floue, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur, et c'est pour ça que j'ai commencé l'informatique.
Après, moi je veux plus faire l'intelligence artificielle qu'autre chose, parce que en fait il y a trop le dilemme de est-ce que l'IA après elle va contrôler le monde, or que je trouve que c'est un peu chelou, parce que si nous on l'a créé, c'est nous qu'on la contrôle. Et le problème, c'est que même si on pense comme ça, on ne va jamais la contrôler, parce qu'il s'agit d'un apprentissage. Bah, en gros, ChatGPT, si tu ne lui donnes pas, si tu lui racontes pas ta vie, il ne va jamais connaître, la réponse. Bah, lui, il apprend comme ça. Ce que tu lui donnes pour faire un CV, bah, lui, il apprend, il te connaît plus. Et ça lui aide à améliorer pour, au final, bah, il est plus capable de répondre à tes questions de cours que toi-même, en vrai. Après, il faut savoir le contrôler, c'est tout.
Aïcha et Fatima ont beau étudier en fac de sciences, elles préfèrent l'ambiance de la BU de lettres.
Alors, à la bibliothèque, d'abord, il y a l'ambiance d'études, surtout quand on a des contrôles des examens. On vient ici, on voit tout le monde motivé pour les études. Alors, on se concentre mieux, bien sûr.
Le problème, c'est que la BU de lettres ferme plutôt que les autres bibliothèques du campus, autour de 17h, faute de personnel. Est-ce que c'est indispensable pour elle que ce lieu ferme plus tard ?
Parfois, oui. Surtout quand on travaille en équipe et qu'il n'y a pas d'autre place. On ne trouve pas, et surtout quand il fait froid dehors et tout, on a besoin d'un endroit pour se concentrer et qu'on soit à l'aise. Et du coup, ouais, c'est préférable que ça se ferme un peu plus tard.
À la BU, on révise bien sûr. Et qui dit révision, dit examen, que l'on appelle partiel. Les étudiants ont 2 semestres dans l'année, de septembre à décembre et de janvier à mai-juin, en fonction des filières. Chaque semestre se termine par des partiels de gros examens dont les notes seront mélangées avec celles du contrôle continu, c'est-à-dire des contrôles et des devoirs rendus. Ce sont forcément des périodes stressantes et nombre d'étudiantes doivent gérer d'autres soucis de la vie quotidienne à côté, comme le logement et l'argent.
Alors moi, j'habite avec mes parents, mais pour trouver un logement, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Je voulais un logement en Crous et Alors, il faut vraiment courir pour ça parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est difficile. Franchement, je vois certains étudiants qui viennent ici tout seuls. Ils ne connaissent rien du tout. Mais ils se débrouillent bien. Et franchement, c'est étonnant. Mais c'est bien.
C'était un peu difficile au début parce que j'ai pris l'habitude que mes parents financent tout. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est eux qui financent toutes mes études. Mais après, c'était un peu difficile d'être tout seul. En tant qu'étudiant international, on ne peut pas venir sans avoir l'argent. Si les parents ils ont envoyé leurs enfants, c'est qu'ils ont l'argent. Financièrement, ils peuvent financer les études. Après, c'est un choix d'étudiant. S'il veut vraiment rester dépendant de ses parents, c'est pour ça que la majorité, ils travaillent. Parce qu'envoyer tout le temps, pour certains, c'est pas évident. Sinon, à mon avis, qu'il n'y a pas un étudiant qui est venu si vraiment il ne peut pas financer ses études.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Pour aider les étudiants en difficulté, il existe des dispositifs comme les bourses du CROUS, l'épicerie solidaire et SOP qui proposent des produits de première nécessité à des prix très faibles, ou encore le guichet de l'aide qui est un lieu d'accueil pour orienter les étudiants en fonction de leurs problèmes. Un soutien indispensable pour encaisser la grande machine de travail que représente l'accès à l'enseignement supérieur. La rédaction du Club Podcast a rencontré Florian Gasque, technicien audiovisuel qui travaille au service communication de la Fac de Lettres et de Langues de Sciences Humaines.
Ça fait 56 ans qu'il y a l'Université de Lettres. On est clairement dans un lieu ouvert. Donc le campus, en fait, il se compose en plusieurs bâtiments, chacun ayant à l'intérieur un type de formation. Donc nous, c'est Lettres, Langues et Sciences Humaines. Derrière, il y a Polytech. De l'autre côté, il y a l'IUT. Entre les deux, il y a Droit, Économie, Gestion. En fait, chaque bâtiment renferme un type de formation. Et donc, du coup, toutes sont autour du lac, qui est le lac de la source. Du moins, vous l'avez tous plus ou moins déjà vu. Et l'idée, c'est que la manière dont ça a été construit à l'époque, donc c'est en 61, si je ne dis pas de bêtises, il a été réfléchi de faire un campus à Orléans comme les campus américains, c'est-à-dire que ça soit une mini-ville dans la ville. Bon, pour avoir un petit peu vu les campus américains, on n'est pas sur la même approche. Par contre, du moins, on n'est pas sur le même résultat. Par contre, concrètement, la réflexion, ça a été ça, construire l'université autour du lac, et du coup autour de ces aménagements, en fait.
Un très grand espace sur lequel vivent près de 20 000 étudiants. Ces jeunes qui sortent du lycée et du système scolaire doivent s'adapter, ils doivent devenir autonomes et se prendre en charge. À l'université, les étudiants sont beaucoup moins suivis par leurs professeurs. Pour les révisions, il ne faut pas attendre le dernier jour pour s'y mettre.
En fait, il faut vous dire qu'à l'université, la chose qui change beaucoup d'avec le lycée, c'est l'introduction de ce qu'on appelle les cours magistraux. Les cours magistraux, c'est un cours comme là vous avez au lycée, l'enseignant est face à vous et vous apprend des choses sur certains sujets. Je suis très vague sur mon propos, mais c'est pour essayer de simplifier au mieux. Et donc, du coup, vous allez être nombreux, voire très nombreux dans la salle. Et donc, du coup, contrairement au lycée où parfois vous êtes 30, 35 ou 40 dans une salle, là, vous pourrez être, comme ici, 120 dans une salle ou dans un amphi qu'on va essayer d'aller voir tout à l'heure, où du coup, vous allez être 300, 350. C'est là où souvent il y a une difficulté d'adaptation quand on passe du lycée à l'université, c'est d'arriver à suivre de la même manière entre une classe de 40 élèves et une classe de 400. La deuxième chose, c'est la prise de notes, puisqu'effectivement, on vous dit plus ce qu'il faut noter, on vous accompagne moins sur les choses à faire, il y a beaucoup plus de demandes d'autonomie. Et c'est la deuxième petite chose sur laquelle, effectivement, il y a une différence entre le lycée et l'université. Mais globalement, quand on voit des salles comme ça, ça peut faire peur. Mais nos enseignants sont avant tout des pédagogues. Donc, leur objectif, c'est de vous enseigner des choses. Ils ont été formés pour ça. On les accompagne pour ça. Donc, du coup, même si quand on voit une salle comme ça, surtout à votre âge, ça peut faire peur, l'idée, c'est qu'on est sur des gens dont c'est le métier de vous apprendre. Donc, ils savent gérer 120 personnes et faire en sorte que vous puissiez réussir au même titre qu'un autre.
La rédaction du club podcast a pu visiter un des amphithéâtres de la faculté de lettres. Les jeunes journalistes remarquent très vite une vitre brisée près de l'estrade sur laquelle les enseignants donnent leurs cours.
Pourquoi là-bas il y a une fenêtre qui est cassée ?
C'est une très bonne question. Il faudrait demander aux gens qui ont jeté les cailloux sur les fenêtres. Mais du coup, voilà. Alors, ça a été cassé pendant les vacances, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore réparée. Et donc, comme du coup la fenêtre n'est pas toute jeune, puisque le bâtiment n'est pas tout jeune, on est en train de regarder pour la remplacer par une plus moderne qui résisterait mieux. Mais du coup, il y a des délais de livraison, il y a des marchés publics, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va vite être compliqué et pas très intéressant. Mais grosso modo, on ne peut pas acheter où on veut, comme on veut, puisque c'est de l'argent public, donc ça rajoute des délais pour pouvoir modifier ça.
Ils sont sanctionnés ?
Les gens qui ont cassé ? S'ils se font attraper, oui. Mais du coup, là, après, il y a un service de sécurité. Ce service de sécurité s'est mis en lien avec la police. Et du coup, ensuite, c'est la police qui prend le relais. Et là, moi, par contre, je n'ai pas les informations puisque ça ne fait plus partie de mes compétences.
Pour la rédaction du Club Podcast, la visite de l'amphithéâtre représente la découverte d'un espace impressionnant, permettant à un grand groupe de suivre des cours. Avec des rangs de sièges répartis en hauteur, dans une telle salle, il est évident que le professeur n'ait pas la possibilité d'aider les étudiants au cas par cas. C'est le moment de se prendre en main.
Tout à l'heure, quand je vous parlais de cours magistraux, que je vous disais que vous allez être 150, 180, 200 face à un enseignant, c'est dans ce genre de salle. Du coup, là, vous le devinez assez facilement, le PowerPoint est projeté en bas. Du coup, les images avec toutes les explications, les cils, et là, les documents historiques, les cartes géographiques, les extraits de texte, etc. Et ensuite, l'enseignant vous délivre le cours. Et donc, vous êtes installé là et vous faites votre prise de notes. On est sur quelque chose de quasi quotidien quand vous êtes à l'université. La meilleure place. Alors, en fait, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Déjà, ta vue. Si tu vois mal, c'est mieux d'être devant. Ensuite, ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai envie de te dire, la meilleure place, c'est celle où tu te sens à l'aise. C'est-à-dire que du coup, si tu es plus à l'aise en étant devant, parce que tu entends mieux, tu vois mieux, t'as personne qui te distrait, mets-toi devant. Si à l'inverse, tu es plus à l'aise en étant derrière, parce que tu n'aimes pas avoir du monde derrière toi, parce que si, parce que là, mets-toi derrière, il n'y a pas de meilleure place. Dans cet amphi, comme tu vois, tu vois bien partout. Tu te positionnes où tu veux. Je suis sûr que si là, on fait un exercice, je vous dis, prenez la place qui vous plaît le plus, on est tous à un endroit différent. Parce que c'est une question après de là où tu te sens le plus à l'aise. Il n'y a pas de meilleure place, vraiment. J'étais dans deux types d'amphithéâtres. Donc moi, j'ai fait ma première année, celle où du coup, je vous disais que je n'ai pas choisi le bon parcours. Je l'ai faite à Narbonne, du coup. Et donc, on était sur des petites promos. L'amphi, on était 100 dans la salle. Ce qui, du coup, pour... On était l'équivalent de la salle qu'on a visitée tout à l'heure. C'était notre maximum. La première fois, en fait, on se dit que justement, on échappe à ce caractère surveillance puisque personne ne peut surveiller 100 personnes tout seul. Voilà. Et donc, du coup, on se dit je peux être inattentif, etc. Mais très vite, par le niveau qui est exigé, parce que forcément, le niveau à l'université ou au lycée n'est pas le même, c'est logique, on continue d'avancer dans les études. Si on ne veut pas être largué, on est obligé d'être attentif. Et au final, il y a beaucoup, beaucoup d'autodiscipline. Donc, mon expérience personnelle au début, ça a été en mode « Waouh, super, je vais pouvoir faire ce que je veux. » Et au final, c'est ça, je suis libre. Le bon vieux cliché du « je suis libre ». Et une semaine après, j'étais en mode « je suis libre, mais il faut quand même que j'ai mon diplôme ». Et voilà. Donc, au final, on se s'autorégule très vite. À l'université, il faut dire que chaque enseignant... enseigne dans son domaine, évidemment, dans le cadre de ce qui est défini par la loi, par les programmes, etc., mais aussi par ses connaissances et son domaine de recherche. Donc le même enseignement qu'on vous délivre à l'Université d'Orléans sera peut-être légèrement différent à l'Université de Tours qu'à celle de Strasbourg ou de Paris. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, que c'est mieux, ça sera différent. En travaillant ici, je devrais vous dire que c'est mieux, mais c'est surtout, c'est différent. Et donc, du coup, chaque enseignant ayant un enseignement différent aura aussi des méthodes différentes. Et du coup, en ayant des méthodes différentes, forcément, il y aura des choses qui vous accepteront, des choses qui n'accepteront pas. Certains enseignants s'en moqueront que vous ayez votre téléphone sur vous. D'autres considéreront que c'est un manque de respect. D'autres peut-être même exigeront que vous le qu'il ne soit pas visible. En fait, chaque enseignant aussi applique ses propres règles, c'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur à l'université, il y a un règlement intérieur dans chaque composante, et après ça, il y a aussi les règles que l'enseignant fixe, un peu comme au collège ou au lycée finalement.
Mais les cours à l'université ne se résument pas à ces grandes conférences que sont les cours magistraux. Les étudiants se réunissent aussi régulièrement dans des petites salles, parfois pas plus grandes que celles d'un collège. En petits groupes, les jeunes adultes suivent ce qu'on appelle des TD ou travaux dirigés, des séances où l'assiduité est requise.
Les cours magistraux, donc ça c'est effectivement la différence avec le lycée. Ensuite, il y a des TP et des TD. La différence entre les deux, c'est que un et plus de l'approfondissement du cours, l'autre est un peu plus pratique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si je dis une bêtise, je vais me faire taper sur les doigts. Mais dans l'absolu, l'idée, c'est que vous allez avoir aussi des cours en plus petits groupes. L'université, ce n'est pas que comme ce qu'on voit à la télé où il y a 400 personnes avec un enseignant devant. Il y a aussi des moments où vous allez être 30-40 où il va y avoir un accompagnement plus personnalisé, puisque justement vous allez avoir des travaux concrets, pratiques, et vous allez pouvoir apprendre sur des cas concrets et aussi apprendre de vos erreurs, puisque ça fait aussi partie de l'apprentissage. Mais du coup, vous pouvez avoir des cours à partir de 8h le matin, parfois jusqu'à 20h le soir. Et ensuite, du coup, vous allez avoir une charge de travail qui va dépendre du cursus que vous allez prendre. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire le minimum parce que déjà, je ne le sais pas et qu'ensuite, je ne veux pas vous indiquer une erreur puisque les maquettes et donc les formations sont revues pour correspondre à la réalité du monde professionnel régulièrement. Mais du coup, vous pouvez monter sur des semaines à 38, 40 heures, voire plus sur certaines semaines. Et surtout, le plus important et souvent la partie qui paraît négligeable au premier abord, souvent quand on arrive depuis le lycée, en tout cas moi j'ai fait cette erreur quand j'étais lycéen, c'est le travail à faire à la maison. C'est-à-dire que concrètement, on attendra beaucoup plus de vous, de travailler depuis chez vous. J'évoquais tout à l'heure la notion de cours en ligne. Il peut y avoir des documents à aller consulter sur les cours en ligne, des vidéos à observer, de la bibliographie à faire, c'est-à-dire aller lire des livres et récupérer les informations dedans. Il va y avoir des dossiers à rédiger, des rapports, des mémoires, etc. Et en fait, le temps en cours, il est présent, vous êtes là et vous allez avoir des horaires, mais il y a aussi et surtout beaucoup de travail à la maison à prévoir. Et c'est pour ça que des fois, le vieux cliché du « mais oui, vous faites 15 heures à la fac », déjà, c'est faux. Et ensuite, derrière, il y a 40 heures à faire chez soi. Et du coup, c'est la partie à ne pas négliger parce que pour réussir, vous êtes obligé d'avoir en fait une partie qui vient de vous. Et c'est, ça fait partie des méthodologies que vous apprenez en première année, justement à rentrer dans la machine du travail autonome. Globalement, je ne peux pas répondre pour tous les enseignants, mais l'idée qu'être absent à la fac, ça n'a pas de valeur, qu'en gros, on ne fait pas l'appel, c'est une idée reçue. Dans l'absolu, oui, il y a l'appel qui est fait parce que ça fait partie des conditions à remplir. Ça fait partie des conditions à remplir pour certains étudiants, pour conserver leur bourse notamment, donc l'argent qu'ils reçoivent pour leurs études. Donc du coup, si, il y a une forme d'appel qui est fait. Alors après, quand il y a 120 étudiants, je te rassure, ils n'appellent pas un par un. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées. Soit il y a une feuille qui passe et chacun doit signer, soit effectivement... elle voit qu'il manque 3-4 élèves, elle demande le nom, ou il demande le nom d'ailleurs, etc. etc. Ça dépend de l'enseignant. Effectivement, si elle fait signer la feuille qui a 120 signatures, mais qu'elle voit 40 personnes devant elle, il y a un moment, elle va se dire qu'il y a un problème.
Mais comme on sort du système que nous connaissons au collège et au lycée, y a-t-il des récréations à l'université ?
Alors, le mot récréation, non, ça c'est certain. Par contre, ils ont des pauses, effectivement. Au niveau des emplois du temps, ils n'ont pas, par exemple, une récréation à 10h ou à 15h30 comme on peut avoir au collège ou au lycée. Par contre, ils ont une pause à midi et ils peuvent avoir des heures de trou, comme vous avez, vous, au collège ou au lycée, où des fois, vous avez une heure, vous n'avez pas cours. Et du coup, effectivement, ils ont un moment de pause. Après, il faut se dire quelque chose, c'est ce que j'évoquais juste avant par rapport au travail autonome. Généralement, cette heure-là, elle est rarement perdue à rien faire. Elle est plutôt utilisée pour aller justement à la bibliothèque universitaire que vous avez vue tout à l'heure, pour choisir les prochains livres à étudier, pour consulter certains sites internet, pour relire les cours qui sont déposés sur ici chez nous, chez Célène, donc la plateforme de cours en ligne, etc. Donc souvent, elle est plutôt utilisée comme une heure gagner sur son temps de travail personnel. Donc de la récréation, non. Il y a des pauses, il y a des moments de trou, mais il faut c'est du temps que généralement qui est optimisé sur le temps de travail.
Ça peut être aussi utilisé pour, par exemple, l'implication dans des associations étudiantes, il me semble.
Exactement. Alors, la vie associative, on ne l'avait pas encore évoqué, j'avais proposé tout à l'heure d'y passer, mais tu fais très bien d'en parler. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait que l'université, c'est aussi donner tout l'arsenal nécessaire aux futurs citoyens. J'ai parlé de culture, mais ça passe aussi par de l'associatif. L'université a de très nombreuses associations. Il y a des associations musicales, il y a une association de théâtre qui est, j'allais dire, assez connue, puisqu'elle fait quand même au moins une fois par an une pièce de théâtre, donc l'asso Bâtard, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plusieurs associations là, et puis c'est des associations qui sont vivantes, qui sont gérées par les étudiants. Et donc du coup, à une époque, il y a eu beaucoup de rôlistes, de joueurs de jeux de rôle, et ils avaient monté une asso de rôlistes sur la fac. Donc ça fait aussi partie des choses qui font un citoyen, les initiatives et ce qu'il a envie de faire. Et donc du coup, l'université vous permet, via le système associatif, de justement mener ce genre de projet. Ils avaient envie de faire une association de jeux de rôle, ils ont monté une association de jeux de rôle. J'ai pris cet exemple-là, il y en a plein d'autres. L'idée, c'est que ça vous permet, dans un cadre où vous pouvez être accompagné, de justement faire vos premiers essais sur ce que vous avez envie de tester.
Et les heures de colle ?
Alors non, il y a toujours le système de sanctions existe forcément. À partir du moment où on rentre dans un cadre où il y a des règles, généralement quand il y a des règles, il y a des sanctions, c'est le principe. Par contre, l'idée c'est que les heures de colle, c'est quelque chose qui n'existe pas à la fac, ou en tout cas moi ça fait 12 ans que je suis ici, j'en ai jamais vu, pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait quand vous venez à l'université, vous avez fait le choix de venir là, vous avez passé tout un parcours de sélection, vous avez été pris, vous vous êtes inscrit, vous êtes venu, et vous êtes normalement en train d'étudier quelque chose qui vous intéresse. Et donc du coup, les motivations ne sont pas les mêmes, et généralement quand vous venez ici, vous venez par choix, donc vous n'avez pas le même comportement qui peut amener des sanctions. Il y a une autre chose aussi qui rentre en compte, vous vieillissez, vous gagnez en maturité, il y a probablement aussi des choses que vous faisiez à une époque que vous ne feriez plus. La dernière chose qui est peut-être la plus importante, c'est que généralement, les personnes qui n'ont pas envie d'être là, donc celles qui veulent des heures de colle, prennent des heures de colle. Généralement, elles ne viennent pas. Donc du coup, elles ne sont pas collées puisqu'elles ne sont pas là. À l'université, il existe un service de réorientation. Dites-vous quelque chose, l'université, quand vous la choisissez, vous allez vous investir pendant un an dans un domaine. Et on peut se tromper. Moi, le premier, je me suis trompé. La première année d'études que j'ai fait, ce n'était pas du tout fait pour moi. Je m'en suis très vite rendu compte. Et du coup, à l'époque, moi, je ne connaissais pas ce service, donc je n'étais pas sur l'université d'Orléans quand j'étais étudiant. Mais du coup, c'est un service qu'il y a ici. Si vous vous en apercevez assez tôt, ils peuvent vous accompagner pour aller vers autre chose et du coup, ne pas perdre une année. Ou, si c'est trop tard, vous accompagner pour que la transition se fasse du mieux possible et éviter de perdre du temps, concrètement. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez le droit de vous tromper. Et l'université est aussi là pour vous accompagner, c'est ce que je disais tout à l'heure, apprendre de ses erreurs. Elle est aussi là pour vous accompagner quand vous faites une erreur, vous expliquer comment ne pas la reproduire, en fait, tout simplement.
Pour revenir au système de sanctions, l'université possède un règlement intérieur qui sanctionne les mauvais comportements des étudiants, mais aussi des enseignants et des membres du personnel, comme la loi et la justice peuvent le faire pour les adultes. Par exemple, toutes les formes de violences sexistes et sexuelles sont formellement proscrites et l'université déploie régulièrement des campagnes d'affichage et de communication pour rappeler que le respect de la personne humaine est une valeur fondamentale. Les jeunes journalistes de la rédaction ont ainsi vu une affiche dans l'amphithéâtre et l'ont regardée attentivement.
Une agression, de manière globale, vous savez tout ce que c'est quand on agresse quelqu'un. Bon, ici c'est à caractère sexuel, donc c'est quand on touche le corps de quelqu'un contre sa volonté. Que ça, et quand on parle d'agression sexuelle, ce n'est pas forcément que sur les parties génitales, que ce soit des zones qui sont sexualisées comme les fesses ou la poitrine, évidemment, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples, un câlin forcé ou un bisou forcé, ce sont des agressions sexuelles. Et du coup, pourquoi on fait un affichage de prévention ? On a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnel et beaucoup de gens qui gravitent autour des étudiants et de ce personnel. Et donc, évidemment, qui dit beaucoup de gens dit forcément aussi des risques liés donc aux fameuses agressions que je viens de vous définir. Et donc ensuite, ça peut aller à pire, tout ce qui est qualifié de viol. En fait, toute relation sexuelle imposée, quelle qu'elle soit. On va faire plus large, toute relation sexuelle imposée, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est que c'est un risque. Or, au-delà de l'agression que ça représente, il y a aussi tout ce que ça cause à la victime. Et pour vous donner un ordre d'idée, légalement, c'est placé au même titre que, du moins, c'est un crime, en fait. C'est un crime. Donc l'idée, c'est qu'on fait de la prévention dessus pour plusieurs choses. Déjà, rappeler les différents éléments qui ne sont pas acceptables aux potentiels agresseurs, mais et aussi aux victimes, sur comment être accompagné s'il se passe quoi que ce soit. C'est-à-dire que, déjà, on vous croit, ensuite, on vous accompagne, que ce soit pour le choc psychologique, que ce soit pour les démarches pour porter plainte, pour, bref, tout ce qui peut se passer ensuite, puisque du coup, malheureusement, après des événements comme ça, y a toute une vie à reconstruire. Et que pour ça, généralement, on a besoin d'être accompagné. Ou en tout cas, l'université cherche à accompagner au mieux.
Et donc, on voit un plan de communication autour justement du harcèlement sexuel et du sexisme qui est fait par l'université. Oh, il y en a partout. On en a même nous dans nos locaux, puisqu'ils ont été proposés aussi. Et là, on a ce plan-là que je ne connais pas. C'est peut-être le plus récent ou peut-être pas. Les amphis sont le lieu de l'émancipation, pas du sexisme. Ouais, c'est ça. Un amphi, c'est fait pour rencontrer les grands textes, pas les petites phrases sexistes. C'est important, je pense, d'avoir un plan de communication de cette manière-là pour marteler et faire entrer dans les consciences que des choses qui nous paraissaient peut-être pas forcément graves il y a encore quelques années, eh bien, le sont en réalité. Il y a un changement peut-être de mentalité dans la prise en compte des violences sexistes et sexuelles que les personnes peuvent rencontrer, et notamment, en très très grande majorité, les femmes, notamment. Tu as une question à poser par rapport à ça ?
Ça veut dire quoi, le mot sexiste ?
Est-ce que le mot discrimination, tu le comprends ? Tu as le droit de dire non ? Ok, alors concrètement, une discrimination, c'est quand quelqu'un subit un traitement différent et du coup vers le négatif lié à une situation. Ma définition est très mauvaise, on va peut-être utiliser Google après, mais du coup, est-ce que tu comprends globalement l'idée quand je te dis ça ? Ok, donc ça peut être du harcèlement, effectivement, comme tu as évoqué, mais ça peut être d'autres choses. Donc, pour la discrimination, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir le handicap, il peut y avoir la couleur de peau, il peut y avoir la religion et il peut y avoir le sexe. Globalement, on peut te refuser un poste, par exemple, parce que tu es une femme. Ou on peut considérer que parce que tu es une femme, tu serais moins intelligente, moins ci, moins là. C'est ce qu'on appelle du sexisme. C'est en plaçant un sexe comme inférieur à un autre. Pour te donner un ordre d'idée, le racisme, c'est une discrimination sur la couleur de peau ou l'appartenance ethnique. Et bien, le sexisme, c'est la même chose, mais c'est pour le genre. Donc ici, femme, homme, non-binaire, etc. Pour te donner un exemple de sexisme qu'on appelle ordinaire, justement, ces fameuses petites phrases, c'est considérer que c'est aux femmes de faire la cuisine. Ben ça, c'est du sexisme ordinaire. Voilà. Non, mais c'est. Ben ça, c'est du sexisme ordinaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'une tâche aussi anodine que faire la cuisine, elle serait propre aux femmes parce que ben, ça serait dégradant, ça serait pas assez noble pour un homme. Par contre, assez ironiquement, dès qu'il s'agit de faire de la grande cuisine, alors là, c'est pour les hommes. Donc en gros, les basses besognes, c'est pour madame, et la noblesse, c'est pour monsieur. C'est du sexisme. Et donc en fait, le sexisme ordinaire, c'est des petites phrases comme ça. La femme à la cuisine, la femme qui fait le ménage, c'est à la femme de s'occuper des gosses. Bref, donc, moi, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle du sexisme ordinaire.
L'université est composée de nombreux services pour assurer les cours, les examens, mais aussi toute la vie quotidienne. Plusieurs milliers de personnes travaillent dans ce lieu. Et parmi tous ces personnels, certains assurent la communication des actions proposées au travers d'affiches, du site internet, mais aussi de vidéos et de podcasts. Et pour cela, la faculté de lettres dispose d'une salle très particulière qui permet d'enregistrer des vidéos et du son avec le matériel nécessaire. Florian nous y a conduit.
Donc là, on est au studio vidéo donc de l'université. L'installation qu'il y a là, normalement, à moins qu'on ait changé de salle, c'est là où il y aura le live ce soir. Et ça peut vous êtes au collège, mais ça peut vous intéresser ou intéresser votre entourage. Ce soir sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Université d'Orléans, il y aura un live qui, du coup, parle de l'orientation et donc qui permet aux étudiants et à leurs parents de poser des questions, justement, avant de s'inscrire à l'université, puisqu'après, vous allez, y a les inscriptions sur Parcoursup, vous avez encore le temps pour vous. Mais du coup, là, on aura des gens qui vont s'installer. Nous, on va mettre ces deux lumières-là, allumer celle au plafond, en rajouter d'autres, mettre 2, 3 ou 4 caméras. Et en fait, on recevra toutes les caméras sur l'écran qu'il y a derrière. Et en fait, on fait ce qu'on appelle une réalisation en direct, exactement ce que vous voyez à la télé, les caméras qui changent en direct.
Eh bien, bonjour. Pour cette première session YouTube Live de présentation de l'offre de formation de l'Université d'Orléans, moi je suis Sébastien Ringdé, je suis le vice-président formation et vie universitaire de l'Université, et puis je suis accompagné de... Je
vous en prie, Nathalie Magneron, directrice de l'INSPE Centre-Val-de-Loire.
Et Hélène Soncourleny, responsable du centre de formation d'Orléans pour l'INSPE.
Et aujourd'hui, nous allons parler de la licence professorat des écoles, qui est une toute nouvelle licence, qui sera créée donc à la rentrée, à destination des lycéens qui se disent maintenant, ben moi je voudrais bien être professeur des écoles dès maintenant.
Donc ça c'est la salle, forcément je prêche pour ma paroisse, c'est une des salles où je travaille le plus, mais du coup... L'idée, c'est que c'est une des salles que je dis les plus cool, dans le sens où c'est là où aussi il y a beaucoup de choses qui sont créées, et notamment par les étudiants, parce que les étudiants les utilisent beaucoup aussi pour faire soit de la photo, soit de la vidéo dans le cadre de leurs études. C'est-à-dire que, par exemple, on a des étudiants qui sont filmés pour travailler leur prise de parole en public. Il y a des gens qui se filment pour... travailler ou en tout cas faire un rendu de devoir sur de l'anglais, de l'espagnol ou d'autres langues étrangères, etc. L'idée, c'est que c'est un espace sur lequel ils peuvent apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur l'aspect technique, sur l'aspect communication, mais aussi sur revoir ce qu'ils ont fait. L'intérêt, c'est que quand ils se filment en parlant en anglais ou en espagnol, s'ils revoient la vidéo avec l'enseignant, elle peut les corriger en direct et justement, en s'entendant faire l'erreur, on peut la corriger. Une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de se perfectionner dans les différents domaines. Moi, une partie de mon boulot, justement, c'est aussi de prêter le matériel aux étudiants. Donc là, il n'est pas dans la salle, il est dans la réserve fermée à clé. Mais du coup, l'idée, c'est que les étudiants peuvent venir me voir et moi, je leur prête du matériel avec lequel, justement, ils vont se filmer, faire les photos, faire des enregistrements audio. Et notamment, là, ça va vous parler, on a des étudiants qui font des podcasts sur la littérature, sur l'histoire, sur la géographie, sur des choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que c'est les étudiants qui parlent entre eux, des fois avec des enseignants, des fois avec des invités, des fois avec des gens de la ville, des fois avec des... Voilà, avec divers invités. Et donc, du coup, c'est moi qui leur prête le matériel, qui les accompagne techniquement. Et derrière, ils font leur podcast exactement comme vous.
Et pour préparer les étudiants à la vie professionnelle, des dispositifs existent. C'est par exemple le cas de Pépite.
Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on accompagne les étudiants dans leur développement en tant que citoyen, en tant qu'adulte, en tant que futur professionnel. Et notamment par futur professionnel, on va parler du fait qu'il y a des étudiants qui veulent créer leur entreprise. Et du coup, il faut aussi les accompagner dans la création d'entreprise, parce que créer une entreprise, ce n'est pas juste avoir une idée, le faire et point. Il y a plein de choses à gérer, que ce soit la comptabilité, je ne sais pas, la gestion des stocks, des services, la loi, les ci, les là. Et donc, du coup, il y a un service qui a pour but de vous accompagner sur la réflexion de votre entreprise et ensuite jusqu'à la création de l'entreprise. Et donc, du coup, ce service s'appelle Pépite. Et il y a quelqu'un qui vous en parlera bien mieux que moi. Donc, c'est madame ici qui, du coup, en a bénéficié et a créé son entreprise. Je te laisse prendre le relais.
Du coup, moi, c'est Alvina Calais. J'ai créé l'entreprise Teto, qui est une entreprise de puriculture pour les enfants. Je crée des produits pour le bien-être des parents, des enfants. L'idée, c'est de recréer cette bulle de bien-être à la maison. J'ai commencé l'entreprise, sa gestion, quand j'étais encore étudiante. Du coup, j'ai été accompagnée par Pépite. Pépite, je le connais bien, du coup, j'ai passé 6 ans avec. Aujourd'hui, je suis ambassadrice Pépite, j'ai des missions pour eux. Je développe notamment des missions sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, je vois qu'ici, on est pas mal entouré pour en parler. L'idée de Pépite, c'est qu'ils vous accompagnent depuis l'idéation. Donc, l'idéation, vous avez une idée, vous dites, tiens, j'ai vu que... moi, par exemple, c'est parti du problème de l'endormissement des petits. J'ai vu autour de moi mes sœurs qui avaient des problèmes, mes amis qui commençaient à avoir des enfants, qui avaient ce gros problème de sommeil pour leurs enfants. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe, qui fonctionne? Là, je suis partie d'un constat qu'il y avait le pot à pot. Donc, c'est la manière de câliner son enfant avant de s'endormir. Ça a plein de facteurs. Et je me suis dit, on ne peut pas toujours avoir son enfant contre soi. Comment on fait pour reporter ses fonctions dans un objet qui est utilisé par les enfants? Et donc, j'ai tout mis dans une peluche. Donc là, il y a 5 ans de développement là-dessus. Et Pépite m'a accompagnée dans ses recherches, dans le fait d'avoir des formations. Il y a un concours pédagogique qui s'appelle Créa Campus là-dessus, qui va nous permettre vraiment d'apprendre. C'est vraiment pédagogique. Hop, il y a un concours du coup pédagogique là-dessus, c'est Créa Campus. Ça va nous permettre pendant 8 mois d'avoir des ateliers en dehors des cursus que vous pouvez avoir dans les études supérieures. Il faut savoir que là, aujourd'hui, on est à l'université, mais Pépite, ça s'adresse à tous les enseignements supérieurs. Ok ? Donc BTS, il y a quelques personnes des CAP aussi qui fonctionnent, après ça c'est sûr avec les établissements, mais vraiment où que vous soyez, pas seulement à l'université, vous avez le droit d'avoir ce suivi et ce soutien, et du coup vous avez des cours sur plein de matières. Moi j'étais en biologie quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc j'ai eu des cours de finance, de juridique, de management, de marketing, et après ma licence en biologie, j'ai complètement changé de voie parce que j'ai adoré l'entrepreneuriat. Du coup, je suis partie en école de commerce. J'ai été formée avant avec Pépite, avec un diplôme étudiant entrepreneur pour avoir les connaissances suffisantes pour partir en master dans une école de commerce. Et puis, j'ai fait un diplôme commerce, marketing, option entrepreneuriat. Et j'ai même continué sur un second master en communication digitale. Ça m'a permis de créer la boîte aujourd'hui.
Vous êtes jeune, évidemment, donc vous avez tout le temps de penser à votre avenir. Donc, ma question est un petit peu prématurée, mais... certaines d'entre vous seraient intéressées pour créer leur propre entreprise. C'est peut-être un peu prématuré. On reviendra dans 6 ans, ouais, tout à fait.
Il y a des concours pour les collégiens aussi qui existent déjà. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que l'idée de créer, ça vient quand même assez vite. Et là où il y a des contraintes, où plus on monte dans le temps et dans le cursus scolaire, plus on s'inflige un peu des contraintes en se disant oh, non, ça, c'est pas du tout possible, ou ça existe déjà. Quand on est plus jeune, quand on est au collège, on se dit c'est pas grave si ça existe déjà, c'est pas grave si ça paraît impossible, on va trouver un moyen de créer cette possibilité-là. Donc on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idéation chez les plus jeunes, et ça c'est super intéressant. Et là où j'aimerais vraiment mettre un petit point d'honneur là-dessus, c'est que les filles, on a souvent des idées de création et on s'en rend pas compte. Il suffit, les filles, vous avez été aux toilettes tout à l'heure, vous avez eu tous les post-it de petites choses que les gens font, que les étudiantes font. Il y a des personnes qui proposent leurs services pour faire les ongles, pour du crochet, pour de la nourriture, des petits repas maison. Et en fait, ça, c'est l'entrepreneuriat. Sauf que contrairement aux hommes qui vont mettre des grosses affiches sur les panneaux d'affichage, nous, on met les petites affiches format A5 dans les toilettes, alors qu'en fin de compte, on est aussi sur de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas toujours penser à l'innovation, au truc qui va changer le monde. Mais en fait, créer son salon de coiffure, créer sa boutique d'ongles, créer son garage auto, faire du crochet, vouloir vendre ses créations, ça, c'est l'entrepreneuriat aussi. Et ça mérite d'être mis en avant et ça mérite d'être accompagné pour ça aussi. Du coup, il ne faut pas hésiter.
Okay. C'était ton envie depuis longtemps de vouloir créer une entreprise? Enfin, comment est-ce que ça s'est créé dans ton esprit, un petit peu cette idée?
Non, à la base, c'était pas forcément une envie première. Moi, je me destinais plutôt à la recherche. Je le disais, j'étais en bio, j'avais envie de sauver le monde, de trouver des remèdes à des maladies. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il n'y a pas que derrière un labo qu'on peut changer le monde et qu'en fait, en créant son entreprise, en créant des produits qui ont du sens, qui refont du lien, et ben, on peut changer les choses petit à petit. C'est pour ça que je suis vraiment entrée sur cette catégorie d'entrepreneuriat et c'est aujourd'hui ce qui motive ce que je fais. C'est vraiment de changer le monde. Alors c'est très ambitieux comme ça, mais on a le droit d'avoir des grosses ambitions.
Poser sa brique en tout cas. Ouais,
exactement, ouais. Mais quand on voit le sommeil des enfants, tout ce que ça influence derrière, bah, y a les, tout ce qui va être problèmes cognitifs, les crises, la fatigue pour les parents. Quand on sait qu'en plus c'est 70% d'écart, c'est les femmes qui vont se réveiller, qui vont freiner du coup leur carrière. En fait, on se rend compte que si on commence à solutionner ce problème du sommeil d'un enfant, on crée des adultes beaucoup plus concentrés, on crée des parents beaucoup plus impliqués aussi, un lien beaucoup plus stable et en fait, bah, on change les choses.
Donc tu continues ce projet d'entreprise en même temps que tu travailles aujourd'hui pour Pépite, c'est bien ça?
Alors justement, aujourd'hui, Pépite me rémunère pour l'entreprise à travers l'émission que je fais aussi aujourd'hui, puisque l'entreprise, comme je disais, ça s'inscrit dans le bien-être familial et des enfants et des parents. Et pour moi, c'était aussi la continuité avec Pépite de venir inspirer, de donner du crédit à ce que je fais, de faire pousser les enfants, parce qu'on est toujours enfant, même en études supérieures, à aller entreprendre et à créer. Donc en fait, ça fait vraiment partie de la mission de l'entreprise Teto, aussi cette partie accompagnement des jeunes et dans leurs études et dans l'entrepreneuriat, dans leurs rêves en fait.
Alors rappelle le nom de l'entreprise.
Ça s'appelle Teto.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom?
Mon logo, c'est une petite tortue. Et donc je voulais rappeler l'espèce de la tortue, notamment marine, avec l'aspect de la mer qui rappelle le calme, les bruits blancs, la mer aussi qui est réconfortante et la tortue qui prend son temps mais qui avance tranquillement. Donc ça, c'était vraiment super important comme image. Donc on est parti sur vraiment le Teto. Et c'est des syllabes qui sont faciles à prononcer par les enfants. Donc aujourd'hui, je le vois quand je suis que ce soit avec les livres ou avec la peluche, les enfants prononcent très facilement Teto, réclament leur livre Teto. Et donc ça marche plutôt bien.
C'est quoi les bruits blancs?
Les bruits blancs, c'est des bruits qui correspondent à certaines fréquences. Donc on a appelé ça bruit blanc pour... que ce soit plus simple à l'usage quand on en parle. Et par exemple, c'est le bruit de l'aspirateur pour faire endormir leur bébé. Exactement. Du coup, ça s'est pas entendu au micro, je me permets, je répète ta phrase. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de mamans allument l'aspirateur pour endormir leur bébé. C'est le sèche-cheveux. Il y a aussi le bruit des vagues, le bruit de la hotte et le moteur de la voiture aussi. C'est pour ça que beaucoup d'enfants s'endorment en voiture parce que le bruit du moteur fait partie des bruits qui fonctionnent. Tu répondras peut-être mieux que moi, mais je fais une amorce et je lui passe le relais. En fait, quand il y a de la recherche, donc là, ça revient dans le cadre de l'université, quand il y a de la recherche, donc on prend un sujet, on fait des expériences, on se documente auprès d'autres chercheurs, auprès d'autres expériences, auprès de panels de gens qui sont sondés, qui font des expériences aussi de leur côté ou juste dans leur cadre de vie. Et on en tire des constats, des conclusions, des remarques. Ça ne veut pas dire que quand on dit le bruit blanc, ça aide à s'endormir, tout le monde dort. Je vais parler à titre personnel, je fais des insomnies, je peux mettre tous les bruits blancs du monde, je ne dors pas pour autant. Par contre, c'est un constat global, ça aide les enfants à s'endormir. Si toi, tu arrivais à dormir sans bruit blanc, tant mieux. Et on ne va pas se mentir, il y a une deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas envie, pendant que l'enfant s'endort, d'avoir un aspirateur qui tourne pendant 4 heures. Et en fonction de là où tu habites, par exemple dans un appartement, ton voisin, il n'a peut-être pas envie qu'à 21h, il y ait l'aspirateur qui tourne pour que bébé dorme. Donc, il y a plein de contraintes qui peuvent aussi expliquer pourquoi toi, tu ne l'as pas eu. Mais en pratique, au niveau de la recherche, des gens ont fait des études, des tests, etc. C'est quelque chose qui est ressorti. Après, si toi, tu n'en as pas besoin, tant mieux.
L'évolution de ton projet, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, des choses auxquelles tu penses pour la suite?
Ouais, complètement. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, comme je disais, on a sorti une première gamme de livres qui sont des livres pédagogiques pour les enfants. On va suivre notamment l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Maé et qui dit toujours non. Il a 3 ans, c'est l'âge du non. L'idée, c'est de l'aider à choisir et plus de passer du non au oui, mais vraiment d'avoir un choix qui est construit. Et donc, on va suivre ce petit garçon durant son aventure. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin, on a 3 petites pages pédagogiques qui vont expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'il dit non, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Ils sont en âge de comprendre. Et aux parents, pourquoi l'enfant dit non et comment l'accompagner, comment se sortir de ces tips. Aujourd'hui, on a une vraie volonté des parents de faire mieux, mais souvent on est noyé dans la masse et on ne prend pas le temps aussi, parce que dans le quotidien d'une maman, on l'a dit, ça fait énormément de choses. D'un papa, il y a beaucoup de choses à voir. On ne prend pas le temps et on sait que le moment de l'histoire du coucher, c'est un moment qui est privilégié. Donc on va vraiment se servir de ce moment privilégié pour apporter des connaissances. Et on a plein de petites activités en plus à l'intérieur du livre, des choses, des tortues à chercher, des choses à apprendre, à aller chercher à côté, qui vont vraiment rapprocher les parents, notamment des mots soulignés sur les émotions, où on va aller changer un peu les questions. Par exemple, quand l'enfant va dire qu'il adore ça, et ben on va pouvoir demander à son enfant « qu'est-ce que tu as adoré dans ta journée ?» Ça change des questions de « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as mangé ?» On va se rapprocher et recréer du lien. Donc là, c'est vraiment cette gamme de livres. On a fait un exemplaire, il est sorti. Aujourd'hui, on a vendu près de 150 exemplaires, donc on est super contents. En 6 mois, c'est vraiment pas mal. On va continuer sur cette gamme de livres. Et on a obtenu une bourse et une formation là, de 10 000 euros pour développer la peluche dont je vous parlais tout à l'heure, qui reproduit les effets du pot à pot. Et donc là, c'est un gros travail cette année. C'est-à-dire que là, en juin, normalement, je devrais avoir ma peluche sur le marché. Donc c'est des grosses étapes et c'est des choses super importantes.
Un gros sentiment de satisfaction, j'imagine, quand tu arrives à cette étape-là.
Ouais, exactement. Bah, quand ça fait 4 ans qu'on imagine, qu'on met sur papier, qu'on coud. Alors je suis très mauvaise, donc il ne faut vraiment pas regarder mes prototypes. Mais qu'on s'entraîne, qu'on étudie les choses, qu'on lit les études, qu'on demande aux parents comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Enfin, qu'on a fait moult de modèles et que là on arrive avec cette bourse qui vient donner notre travail, tout ce qui est prix aussi. Pépite organise énormément de prix qui viennent valoriser et qui permettent d'avoir un peu de trésor. Il faut savoir que moi, je viens vraiment pas d'un milieu aisé. Mon papa est en situation de handicap. On était 5 enfants à la maison. Autant vous dire que c'est pas quelque chose sur lequel... J'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, malgré les bourses, pour pouvoir gagner ma vie. Et aujourd'hui, les concours Pépite, ça m'a permis vraiment de financer le lancement de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Les freins financiers, il faut... pas s'en faire, ça prend plus de temps. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire aux étudiants que je suis, c'est que soit vous avez de l'argent, soit vous avez du temps. Quand vous avez de l'argent, vous allez plus vite, mais quand vous n'en avez pas, vous avez du temps. Et vous prenez le temps pour gagner suffisamment et lancer l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment super important. Et surtout, il ne faut rien lâcher. On parlait 2 minutes de mon parcours. Moi, il faut savoir que, comme je vous le disais, ça a été un peu compliqué financièrement aussi. J'étais pas dans un milieu aisé et j'avais des difficultés scolaires. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'au lycée et j'ai raté le bac une première fois puisque je suis allée en cours pendant un mois et demi, en gros, sur toute l'année. Donc, autant vous dire que j'ai fait de l'agoraphobie. Je suis pas sortie de chez moi pendant un an et demi.
L'agoraphobie, c'est...
Ça vous parle ?
Ouais, c'est la... Je ne sais pas si c'est la peur, c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est le fait de ne pas du tout se sentir à l'aise dans les milieux où il y a beaucoup de personnes.
Exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne pouvais pas ouvrir la porte de chez moi toute seule. Est-ce que vous vous rendez compte, le cauchemar, ouais. Pour reprendre les études, pour aller prendre les transports, pour aller à l'école, etc., c'était devenu un cauchemar. Et donc, j'ai arrêté les études. Je me suis dit, tant pis. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, pas tant pis. On a le droit de faire des trucs, j'ai envie de faire des choses. Et donc, j'ai repris en candidat libre. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas allée en cours, j'ai pris des bouquins à la maison. Et pendant 2 mois avant le bac, je me suis entraînée à la maison. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Et je suis allée à l'université. Et j'ai raté ma première année parce que le tram, les transports, c'était de nouveau l'horreur. C'est pas grave, j'y suis retournée. Et puis, j'ai eu ma première année la deuxième fois. Je suis retournée pour ma deuxième année, je me suis encore ratée parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, parce qu'il y avait le travail à côté, comme je disais. Eh bien, c'est pas grave, j'ai recommencé et je me suis dit qu'en fait, on s'en fiche du temps que je mets à avoir mon diplôme, du temps que je vais mettre à créer mon entreprise, à vendre mes produits. Au final, ce qui compte, c'est que j'avance à mon rythme, que j'avance toujours. Et ça, je pense que c'est super important aujourd'hui, que ce soit dans la vie de personnel, salarié, d'entrepreneur, c'est de vous dire, en fait, est-ce que c'est si grave que j'échoue ? Non, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux faire mieux pour la fois d'après ? Ok.
Il y avait une question aussi que je voulais te poser par rapport à ton domaine d'activité. J'imagine que tu vois quelque part la manière dont se construit la parentalité et notamment ce rapport masculin-féminin du père et de la mère. Est-ce que toi, de ton point de vue, les choses sont en évolution dans l'équilibrage des tâches et du partage de la responsabilité parentale et notamment au plus jeune âge, selon toi ? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire, des choses à faire justement pour que la femme ne prenne pas tout sur elle mais que ce soit beaucoup plus équilibré ?
Ouais, c'est une question qui est super intéressante et moi je fais les stats des personnes qui m'achètent les livres parce que du coup il y a le monsieur, madame dessus et aujourd'hui on n'est pas encore à l'équité, on est à 40% d'hommes Donc il y a quand même 60% des femmes du coup, qui s'occupent d'acheter un cadeau, parce que généralement c'est pour offrir soit à son enfant, soit à des proches. Donc on est quand même encore à 60%. Mais je vois énormément, je fais des ateliers lecture, etc. Et je vois de plus en plus de papas qui sont concernés, qui viennent avec les enfants, qui sont impliqués dans tout ce qui est pédagogie. Alors évidemment, ça dépend aussi du cadre, du milieu social, de l'éducation. Mais en tout cas, il y a un vrai changement. Et pas seulement dans notre tranche d'âge, entre 25 et 35 ans. On commence aussi même à voir les papas un peu plus vieux, jusqu'à 40 ans, qui sont beaucoup plus impliqués que ce qui n'était avant. Donc c'est vraiment une vraie révolution. Mais je vois quand même une petite régression au niveau des parents les plus jeunes. Et ça, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, au niveau des parents les plus jeunes, quand on arrive dans la tranche, vraiment des jeunes parents entre 18 et 20 ans, on a un peu cette régression quand même de la maman s'occupe de l'enfant. Après, c'est peut-être que les enfants sont en très bas âge et on sait que c'est le moment où ils sont quand même le moins intéressés par les enfants, les papas malheureusement. Mais j'espère que ça va, en grandissant, rechanger.
Il va falloir batailler les filles, hein.
Ouais, vous ne laissez pas faire. Hein.
Vous laissez pas faire, faut que...
Partager les tâches, et c'est pas juste une question de rester à la cuisine, c'est une question de fatigue aussi. Vous allez être plus fatigué. Quand on est plus fatigué, on a des moins bons résultats au travail. Quand on a des moins bons résultats, on évolue moins vite dans la hiérarchie. Donc il y a beaucoup de choses à ne pas se laisser faire.
Du coup, la charge mentale, c'est le fait de gérer. Alors, c'est très simplifié dit comme ça, mais la charge mentale, c'est penser à qu'est-ce qu'on va manger, penser à aller faire les courses, penser à préparer à manger, penser au fait qu'un tel est allergique à ça, un tel a telle restriction alimentaire. Et là, j'ai parlé que du repas. C'est aussi penser à faire le linge, parce que si, le jour où vous avez des enfants, s'il n'a pas de vêtements propres, il ne va pas aller à l'école tout nu, etc., etc. En fait, c'est s'occuper de toutes les tâches, qu'on va dire ménagères, mais aussi de toutes les tâches qui sont utiles. C'est d'y penser, sauf que une tâche plus une tâche plus une tâche, au bout d'un moment, ça fait tellement de choses que ça en devient une charge. D'où le fait que c'est une charge mentale. C'est penser à amener l'enfant au foot, à l'équitation, à la danse, peu importe. C'est penser à aller le chercher. C'est penser à préparer son sac. C'est penser à ce qu'il n'oublie rien sur place. En fait, globalement, la charge mentale, c'est avoir beaucoup de charges à penser.
Mais il y a quelque chose qui est super important, c'est que j'ai beaucoup de papas qui me disent « mais j'emmène l'enfant au foot, je l'emmène aux rendez-vous médicaux, je prends la voiture, c'est moi qui vais le chercher à l'école les soirs ». Super. Mais qui a pensé à faire le sac? Qui a pensé à mettre les vêtements de sport dans la voiture? Exactement. Donc attention, vous ne laissez pas avoir par « oh regarde, je vais chercher les enfants, ok, mais qui a mis dans le planning qu'il y avait le rendez-vous au médecin, qui a préparé le carnet de santé sur le sac ou déjà mis dans la voiture pour être sûr de ne pas l'oublier ?» Il y a beaucoup de choses là-dessus. Non, c'est vraiment super important les filles aujourd'hui de ne pas se laisser avoir par ces petites choses, c'est normal. Aujourd'hui, il faut se rappeler que quand on est en couple, c'est 50-50, c'est de l'équité même, c'est loin du 50-50, c'est qui peut faire quoi. Ok, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité et moi je voudrais juste ramener les choses à l'équité parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes, on ne fonctionne pas du tout de la même manière que ce soit les femmes et les hommes. Et je vais faire une aparté sur l'entrepreneuriat justement, c'est quelque chose qui est beaucoup fait par les femmes. On est en micro-entreprise, souvent on a des plus petites entreprises qui nous permet de nous adapter aussi à notre énergie parce qu'on va parler de quelque chose de, attention un peu touchy, les règles, vous savez qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Les hommes, au niveau de la testostérone, ils ont un pic de testostérone le matin qui leur donne beaucoup d'énergie et puis après ça redescend progressivement dans la journée. Nous, on a le même stade, mais ça dépend de notre cycle. Donc en période des règles, juste avant, on a des phases où on est beaucoup moins énergique, on a beaucoup moins d'énergie. Et quand ça passe, on a de nouveau plein d'énergie. Et ça, au niveau du salariat, par exemple, il n'y a rien qui est fait pour. Quand on a mal, j'ai plus les chiffres en tête, mais juste sur tout ce qui est douleur de règles, on a... je crois que c'est un tiers, exactement. Je crois que c'est une femme sur trois qui souffre durant ses règles. Et bien, quand on souffre, on se lève quand même, on fait quand même les choses. Mais quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit mettre un peu plus à profit et se dire que sur cette phase-là, je sais que ça va moins bien aller, je sais que je vais avoir mal. Et bien, dans ces cas-là, on va faire moins de choses. On va décharger l'emploi du temps et on le remettra quand on aura de l'énergie. Et ça, c'est super important de se connaître. Donc, faites les choses équitablement et avec vous-même aussi, ok?
Vous avez rigolé, mais je viens compléter juste. Elle évoquait le « j'ai amené les gamins au foot, je suis allé les chercher, je les ai fait manger ». C'est bien, bravo, tu es papa. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter de féliciter les papas parce qu'ils ont un comportement normal. C'est-à-dire que bah, si ton papa t'amène au foot, c'est bien, il t'a amené au foot parce que c'est son rôle. Si maman fait ça, personne n'ira l'applaudir. Si papa fait ça, on va dire c'est un bon papa. Bah, c'est une bonne maman aussi, alors. Ou sinon, c'est pas un bon papa.
C'est une maman extraordinaire.
Voilà, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que le compliment, il arrive très facilement pour le papa, mais pour la maman, même si elle en fait 10 fois plus, ouais, mais c'est normal, c'est la maman.
Est-ce que vous dites merci à vos mamans ?
Oui.
Et est-ce que vous entendez votre papa dire merci à votre maman ?
Non.
Est-ce que votre maman, quand il a vidé la vaisselle ou qu'il a fait un truc comme ça, il dit merci ?
Je ne fais jamais.
Je reviens sur la deuxième chose, l'équité. On parle beaucoup de hommes-femmes. Il y a une deuxième chose qui rentre en compte. On parle depuis tout à l'heure aussi de charges physiques liées à ça. Il y a aussi une notion de capacité. Genre, bah, le 50-50, c'est pas forcément équitable. Mais aussi, c'est pas forcément équitable si la personne bah, ne peut pas, parce qu'elle est fatiguée liée à son travail, parce qu'elle est fatiguée physiquement, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a des contraintes physiques, que ce soit pendant la période des règles, mais aussi que ce soit un handicap, une blessure, n'importe quoi. Ben, y a un moment, je veux dire, si ma compagne est blessée, est malade, est pas bien, ben, j'en fais plus, c'est normal en fait. Et du coup, à un moment, ce qui a été évoqué un peu ironiquement tout à l'heure avec 42 fièvres, je me lève et je fais les choses, ben, à la maison, elle ne devrait pas. C'est à condition d'être à deux, évidemment. Ben, monsieur, il se sort les doigts du... Et il y va. Il fait des trucs. Il fait la vaisselle, il fait le ménage, il fait la cuisine. Et au contraire, il lui demande qu'est-ce qu'elle veut manger. Tu as envie d'une soupe, je te fais une soupe et je te l'amène au lit. T'occupe de rien. Et ça devrait être ça. En fait, l'équité, c'est ça. C'est prendre en compte les besoins des autres et faire en sorte que celui qui peut faire plus, fait plus. Celui qui ne peut pas faire plus, on ne lui en demande pas plus. En d'autres termes, c'est pas tuer quelqu'un à la tâche quand il peut pas.
L'université est donc un lieu de savoir, de culture, de préparation à la vie professionnelle, mais aussi d'émancipation individuelle et collective. Un cadre dans lequel les jeunes adultes peuvent développer le respect de l'autre et réfléchir à l'organisation de la société pour tendre vers plus d'égalité.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Ce reportage est le premier d'une longue série qui vous sera proposée sur la Rédac Pop par les jeunes journalistes du Club Podcast. Ce groupe d'habitantes et d'habitants d'Orléans-la-Source, âgés de 11 à 15 ans, est accompagné par le Centre Social Romain Rolland et l'association Escale. Initiés au journalisme et aux outils radiophoniques, ces jeunes seront amenés à effectuer des reportages, des interviews et d'autres formats journalistiques jusqu'en juillet 2026. Vous pouvez retrouver ce reportage audio et l'article qui l'accompagne sur les sites laredacpop.org ainsi qu'orléans.radiocampus.org. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux contenus journalistiques. Prenez soin de vous.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.